À la une, les États-Unis ont frappé aujourd'hui 3 sites nucléaires en Iran. Donald Trump s'est félicité d'une intervention militaire réussie. Des attaques qui auront des conséquences éternelles, répond le régime de Téhéran. Page spéciale dès le début de ce journal. Sur le territoire, un accident de la circulation a coûté la vie à un homme de 34 ans. Hier soir, son véhicule a fait une sortie de route à Calagomène. Opération toujours en cours pour achever l'extinction de l'incendie dans les docks de Biscochoc. Une entreprise de déblayage doit intervenir à Ducos pour prêter main forte aux pompiers. Au Mont d'Or, des enfants de Saint-Louis devront passer les prochaines semaines de classe dans un établissement de la Conception. Leur école avait été la cible de plusieurs incendies criminels il y a 2 semaines. À la découverte des champignons au parc forestier, une journée a été consacrée à cette thématique à l'initiative de la société mycologique, l'association calédonienne qui leur est dédiée. Le sport du rugby, Toulouse, Union Bordeaux-Bègles, ce sera l'affiche de la finale du championnat de France dans une semaine, un remake de la saison 2024 en top 14. Et en Calédonie, du tir à l'arc avec les championnats sur distance internationale qui étaient organisés ce dimanche à Kuutio. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. L'actualité internationale est à la une ce soir. C'est l'information du jour. Les États-Unis ont bombardé des sites nucléaires en Iran. Des frappes menées sur 3 sites stratégiques ciblés. On vous le disait ce matin, des avions bombardiers B-2 Spirit avaient quitté leur base du Minnesota pour être redéployés à Guam dans le Pacifique avec le Moyen-Orient dans le viseur. Le président américain Donald Trump s'est exprimé après cette attaque sur l'Iran, une opération réussie selon lui.
Je peux annoncer au monde que les frappes ont été un succès militaire spectaculaire. Les principales installations d'enrichissement nucléaire iraniennes ont été complètement détruites.
Donald Trump qui parle d'un moment historique pour les États-Unis d'Amérique, Israël et le monde. Il menace désormais le régime de Téhéran. Je cite « Si l'Iran ne fait pas la paix rapidement, les États-Unis frapperont d'autres cibles avec précision », déclare le président américain. Et d'ajouter « L'heure de la paix a sonné ». Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, s'est également exprimé après cette opération militaire américaine.
Félicitations au président Trump. Votre décision audacieuse de cibler les installations nucléaires iraniennes avec la puissance impressionnante et juste des États-Unis marquera l'histoire. L'Amérique s'est montrée véritablement sans égale. Elle a fait ce qu'aucun autre pays au monde ne pouvait faire.
Et après cette intervention militaire américaine, Téhéran a répondu « Les attaques américaines auront des conséquences éternelles ». L'Iran se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple, ajoute le régime iranien. Israël a décidé de relever encore son niveau d'alerte alors que de nouveaux tirs de missiles iraniens ont été entendus ces dernières heures. Au moins 30 missiles selon la télévision israélienne. La population de Tel Aviv notamment a dû descendre aux abris. Wilfried De Villers est le correspondant d'Europe 1 en Israël.
Aux alentours de 7h30, une première alerte a retenti. Les habitants descendent se mettre à l'abri. C'est de là que l'on a entendu 2 salves de missiles bien distinctes. Sur l'application d'alerte que tout le monde ici a téléchargée sur son téléphone, la carte du pays s'est couverte de points rouges. 2 cibles principales, Tel Aviv et Jérusalem. L'Iran affirme avoir entre autres visé l'aéroport Ben Gurion, tout proche de Tel Aviv. Selon un premier bilan, les 2 frappes successives ont fait au moins 11 blessés dans le pays. Ce tir de barrage est une réponse aux frappes américaines. Quelques heures plus tôt sur les 3 principaux sites nucléaires iraniens, comme de nombreuses personnes avec qui j'étais dans l'abri de mon hôtel. On ne parlait que de ça ce matin. Je l'évoquais avec Israël qui se réjouit de cette intervention américaine.
Satisfaction. On sait que c'était nécessaire et ça va accélérer les choses très clairement. On se dit, on n'est plus tout seul dans cette guerre. Il faut savoir que pour nous, l'Iran, c'est aussi les Houthis, c'est aussi le Hezbollah. Donc ce conflit avec l'Iran n'a pas commencé il y a une semaine.
Avec les Américains désormais officiellement à leur côté, les Israéliens espèrent désormais que les choses vont s'accélérer vers la fin du programme nucléaire iranien, la fin aussi des bombardements quotidiens et surtout la fin de cette guerre.
Wilfried De Villers, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Et le président américain Donald Trump s'était laissé 2 semaines maximum pour décider d'une intervention américaine en Iran. Finalement, au bout de 4 jours seulement, il a mis sa menace à exécution. Cette attaque a de quoi surprendre selon l'ancien colonel français de troupes de marine et vice-président de l'Institut Émilis, Pierre de Jong.
Comme toujours, les Américains, comment dire, ont préservé le secret au maximum. On voit bien que depuis quelques jours, 48 heures, il y avait une espèce d'agitation logistique et matérielle autour des objectifs. Donc c'est vrai que l'arrivée globale des B2, donc des bombardiers furtifs qui ont été mis en place à Guam, et on les voyait bien s'approcher. Donc on se disait bien que ça allait, l'opération allait se mettre en route dans les heures qui allaient venir. Ça va changer deux choses. La première chose, tout d'abord, ils ont totalement détruit trois sites, puisque c'est Ispahan, Natanz et Fordo, rasés, puisque c'est le communiqué qui a émané de Washington. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est très important, c'est qu'on va voir ce que vont faire les Iraniens. Donc les Iraniens sont en train de répliquer. Mais quand même, aujourd'hui, on sait très bien que les Américains préparent une deuxième salve. Et cette deuxième salve, elle va toucher des objectifs plus militaires, quelque part. Donc il va y avoir une espèce de montée en puissance, si tant est que les Iraniens rentrent, comment dire, dans la bataille, entre guillemets. Aujourd'hui, on assiste à une frappe globale, mais qui reste quand même extrêmement limitée sur les objectifs strictement nucléaires.
Voilà pour ce commentaire de Pierre de Jong, ancien colonel français des troupes de marine et vice-président de l'Institut Émilis. Les réactions, Léo Fichou, sont déjà très nombreuses après cette attaque.
L'Organisation des Nations Unies, tout d'abord, qui a immédiatement déclaré, je cite, « C'est une dangereuse escalade dans une région déjà sur la corde raide et une menace directe à la paix et à la sécurité dans le monde », par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres. Aux États-Unis, les démocrates américains, eux aussi, réagissent. Le président Trump a induit le pays en erreur sur ses intentions. Il n'a pas cherché à obtenir l'autorisation du Congrès pour l'usage de la force militaire et risque d'engager les Américains dans une guerre potentiellement désastreuse au Moyen-Orient, a déclaré un chef de file de l'opposition démocrate à la Chambre des représentants américaine. Le gouvernement irakien, de son côté, a condamné ces frappes américaines, y voyant une escalade militaire qui menace la sécurité et la paix au Moyen-Orient et met également gravement en péril la stabilité régionale. Et puis dans la bande de Gaza, le Hamas s'est aussi exprimé, je cite toujours, « Nous condamnons cette agression criminelle. Nous la considérons comme un exemple flagrant de la politique d'imposition de l'hégémonie par la force, une agression basée sur la loi de la jungle et une violation de toutes les normes et conventions internationales. » Fin de citation.
Une intervention qui semble s'être faite sans l'avis des Européens. La nuit dernière encore, Emmanuel Macron disait croire à la désescalade. Il indiquait que les Européens allaient accélérer les négociations avec l'Iran pour sortir de la guerre après un appel avec le président iranien. J'ajoute que les autorités iraniennes ont déjà annoncé avoir exécuté il y a quelques heures seulement un homme détenu dans le pays, condamné en tant qu'agent du Mossad, le service de renseignement israélien. Il a été pendu après le suivi de l'ensemble de la procédure pénale et après que sa condamnation a été confirmée par la Cour suprême iranienne, selon Téhéran. Voilà pour cette page spéciale consacrée donc au lancement d'une intervention militaire américaine sur l'Iran et ses frappes sur des sites nucléaires iraniens. Il est 17h passé de 53 minutes. On se retrouve après une courte pause publicitaire pour évoquer l'actualité en Calédonie. À tout de suite.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal, il est 17h53, c'est avec Mickaël Juneski.
Un nouvel accident mortel survenu hier soir en Calédonie. Accident de la route où un seul véhicule était impliqué vers 19h à Kalagomen, sur la route de la tribu de Bawi. Un homme de 34 ans, originaire de la tribu, est décédé. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule. Les gendarmes de la brigade de Kalagomen, premiers à intervenir, ont tenté de lui porter secours, mais en vain. Une enquête est en cours. Ce nouvel accident porte à 17 le nombre de victimes sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. À Nouméa, 3 jours après l'incendie survenu au dock de Biscochoc à Ducos, le site reste placé sous haute surveillance, Léo Fichot.
Oui, exemple, cet après-midi, entre 15h et 15h30, les riverains ont vu passer pompiers, gendarmes et policiers. Et ça, c'est quasiment toutes les heures, explique un habitant du quartier. Malgré la pluie de la nuit dernière, de la fumée sort encore des décombres. Il reste quelques points chauds inaccessibles, précise l'un des soldats du feu présent cet après-midi à Ducos. Des fumées qui éveillent la curiosité de certains, malgré les recommandations du gouvernement de prendre des précautions face à ces fumées. C'est le cas de ce père de famille, écoutez.
Depuis jeudi, ça continue à gare. Voilà les fumées. Là. Les dimanches, on est quelle heure là? 15-16h, mais regarde, il y a toujours la fumée. Là. Ça fait combien là? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça fait 3 jours. Ah bon, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait esprit de sécuriser le site pour laisser consumer, parce qu'ils n'arrivent pas à éteindre. Là, j'ai pas l'information. Nous, aujourd'hui, on est dimanche, du coup, nous, c'est la petite balade pour sortir du quartier, puis en même temps, on passe pour regarder, jeter un coup d'œil, mais c'est vrai que ça fait 3 jours quand même que ça fume. Hein. L'équipe qui habite juste en bas dans les bâtiments, parce que là, depuis que j'étais là, tu sens l'odeur, là, que c'est quand même gênant, quoi. Après, c'est pas trop pour nous qui sommes en bonne santé, mais c'est surtout pour les personnes âgées, puis les personnes asthmatiques, enfin, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, quoi. Après, c'est sûr que voilà, on maîtrise pas tout ça, quoi. Mais sinon, j'ai pas vu le message du gouvernement, mais voilà, c'est quand même inquiétant, quoi.
Les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers restent donc mobilisés sur place. Les équipes se relaient, des rondes sont effectuées toutes les 2 à 3 heures pour anticiper tout nouveau départ de feu. Une société de déblaiement doit intervenir dès demain pour permettre aux pompiers de pénétrer en sécurité dans les sous-sols des docks Biscochoc et donc atteindre les derniers points chauds. Pour l'instant, les accès sont bloqués, avant tout pour la propre sécurité des soldats du feu. Des tôles risquent encore de s'effondrer. Un incendie, je le rappelle, jeudi, d'une ampleur importante, hein, en raison notamment de la présence d'huile végétale stockée à l'intérieur des docks qui avaient déjà été incendiés et détruits. C'était l'an dernier lors des émeutes.
3 débuts d'incendie criminel en l'espace de 3 jours. C'était au début de ses vacances scolaires, il y a 15 jours, dans l'école de Saint-Louis, au Mont-d'Or. L'établissement avait été la cible d'un individu qui a depuis été arrêté. La population de la tribu de Saint-Louis avait dû s'organiser pour protéger l'école, en attendant que l'auteur présumé des faits puisse être appréhendé. Mais le site, pour la rentrée des classes, demain, ne pourra pas accueillir la quarantaine d'élèves habituellement pris en charge à l'école de Saint-Louis. Il a fallu trouver une solution temporaire. À partir de ce lundi, les écoliers seront accueillis dans un autre établissement, nous a dit Manuel Von Arscott, le directeur de la DEC, la direction diocésaine de l'enseignement catholique.
Le bâtiment de devant ont effectivement brûlé, comme tout le monde le sait. Nous allons réintégrer des bâtiments qui sont plutôt dans le fond de l'école. En attendant, les élèves vont être déplacés sur notre école de Conception, comme ça a été convenu avec les différents acteurs et dont les parents d'élèves et la PE. Il y aura un transport qui sera pris en charge et par les parents et par nous, par les institutions, voilà. Et ensuite, nous pourrons déplacer les enfants pendant 3 semaines sur l'école de Conception afin qu'il n'y ait pas de rupture scolaire. C'est là toute notre attention.
Les parents d'élèves sont soulagés de cette décision vu les délais, vu l'urgence?
Tout à fait. Et d'une, qu'on continue à assurer une école à leurs enfants, et de deux, que nous gardions cette école de proximité présente à Saint-Louis même.
Emmanuel Von Arscott, le directeur de la DEC, quant à l'incendiaire présumé, il a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Âgé de 21 ans, il comparaîtra le 15 juillet prochain devant le tribunal correctionnel. Il est en détention dans le cadre d'une autre affaire où il est également impliqué. En bref, le Beticho a annulé sa rotation spéciale qui était prévue aujourd'hui. Rotation spéciale après le mariage du fils du grand chef de l'OSI, organisé ces dernières semaines à l'IFU, mais aussi en vue de la rentrée scolaire. Demain, 350 personnes devaient embarquer ce matin, mais devront finalement attendre. En cause, la forte houle annoncée par les services Météo France de Nouvelle-Calédonie. Une rotation supplémentaire pourrait être mise en place dès demain.
RRB, il est 17h58.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite, on le disait, elle sera marquée par le retour en classe des élèves après 2 semaines de vacances scolaires. C'est aussi une semaine marquée par l'anniversaire des accords de Nouméa, jeudi le 26 juin. Cela fera 37 ans qu'ils ont été signés à Paris. Semaine festive également puisque la ville de Nouméa fêtera le 171e anniversaire de sa création. Ce sera mercredi, comme le veut la tradition. Les Nouméens sont invités à un lâcher de lanterne à 20h sur le terrain municipal de Magenta, où de nombreuses animations sont prévues dès dès 16h. Et puis, au chapitre politique, une réunion publique des loyalistes et du Rassemblement aura lieu mercredi soir, Léo Fichou.
Le rendez-vous est donné à partir de 18h à l'Arène du Sud de Païta. Les partisans de la France évoqueront différents thèmes. La situation institutionnelle, les prochaines échéances ou encore les perspectives nationales. De son côté, le FLNKS réunit une convention. Ce sera le week-end prochain pour préparer les discussions à venir à Paris. Dans l'actualité institutionnelle, les élus du Congrès vont se retrouver en séance publique à 3 reprises. Dès demain après-midi, ils se pencheront sur 6 délibérations essentiellement budgétaires et notamment la délibération modificative numéro 1 du budget. 2 délibérations concernent également la TGC. Mercredi après-midi, 2 projets de loi du pays sont inscrits à l'ordre du jour. Le premier sur la représentativité patronale. La seconde sur des mesures de sauvegarde économique et de reconstruction. Enfin, jeudi matin, ils étudieront 2 textes en seconde lecture. L'un sur la création d'une taxe pour la promotion et le développement du tourisme. Et l'autre sur le domaine de l'eau publique en Calédonie. Pour le reste, on retiendra une réunion du conseil municipal du Mont-d'Or mercredi soir. Ou alors encore l'IUT de Nouville qui fêtera ses 10 ans jeudi.
Une information pratique, les piscines municipales de Nouméa vont fermer temporairement. Chaque année, au cours de la saison fraîche, les 3 piscines municipales de la ville sont tour à tour fermées au public le temps de l'entretien annuel. Le centre aquatique de Nouméa à Magenta et la piscine Henri Delay de Rivière-Salée fermeront dès demain. La piscine de Magenta rouvrira le 28 juillet, celle de Rivière-Salée le 1er septembre. La piscine Jacques Morin du Wentoro sera quant à elle fermée du 28 juillet au 1er septembre. Vos rendez-vous sur l'antenne d'RRB. Demain matin, nous reviendrons sur la New Caledonia Groupama Race à 7h30. La course à la voile sans escale et sans assistance autour de la Nouvelle-Calédonie qui a animé toute cette semaine. Notre invité du matin sera Philippe Mazard, le directeur de course de la New Caledonia Groupama Race. Nous parlerons de cette édition 2025, mais aussi des projets et du rayonnement de cette course. À la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est le général Mathéos, commandant des forces de gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir alors qu'il quittera prochainement ses fonctions sur le territoire. Une interview que vous pouvez également retrouver dans son intégralité sur notre site internet en podcast audio et vidéo www.rrb.nc. Et puis cette semaine, l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos sera Éric Coquerel, président LFI de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale. Une émission que vous retrouverez sur notre antenne demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Dans le reste de l'actualité, les champignons étaient à l'honneur au parc provincial forestier et zoologique de Nouméa. Plus d'une centaine de personnes ont visité l'exposition Les champignons dévoilés, secrets d'un monde souterrain de la Société mycologique de Nouvelle-Calédonie. Kalinda Boako.
Ils étaient en famille ou entre amis pour découvrir le monde mystérieux des champignons, notamment les différentes espèces locales et rares. Les enfants comme les plus grands se sont surtout intéressés au rôle des champignons dans notre écosystème et profiter des ateliers interactifs pour tout savoir sur les champignons et leur rôle écologique. Fabienne, l'une des membres de la Société mycologique de Nouvelle-Calédonie, a présenté des champignons qui prennent le contrôle des insectes.
On a fait un focus un peu particulier sur un monde un peu étrange, fascinant, qui peut peut-être faire peur aussi, c'est les cordyceps. Et ces champignons, ce sont des champignons parasites d'animaux et surtout d'insectes et d'arthropodes. Donc je rassure, pas les hommes à ce jour en tout cas. Et c'est des espèces remarquables parce que c'est des espèces qui vont prendre le contrôle d'un animal et qui vont, par ça, l'obliger à aller à un endroit particulier pour lui qui est de pouvoir semer finalement ses spores le plus loin possible pour coloniser l'espace.
Sur cette table, qu'est-ce qu'il y a ?
Alors, on a mis quelques échantillons qu'on a trouvés et c'était pour illustrer un peu ce kakémono que l'on a mis dans la salle d'exposition pour montrer qu'on a trouvé, nous, en Calédonie, différents insectes, arthropodes qui sont touchés. Donc, sur la table ici, vous avez une magnifique araignée, des cigales, beaucoup de papillons. On trouve pas mal de papillons de nuit qui ont été parasités. Et notre dernière petite trouvaille, c'est une cicadelle. Donc, c'est vrai que ça nécessite aussi, nous, quand on est en recherche, de se mettre en mode infiniment petit et obliger notre cerveau à regarder ce qu'on ne verrait pas si on marchait normalement.
Philippe Bourdeau, le président de la Société mycologique de Nouvelle-Calédonie, a présenté quant à lui aux visiteurs des champignons à travers un microscope.
Alors, les champignons, pour se reproduire, pour faire les bébés champignons, il y a ce qu'on appelle des spores. Les spores, en fonction des champignons, ont des couleurs différentes. Là, tu vois que ça a une couleur légèrement ocre, orangée. Alors, je vais te montrer. Voilà, là, on les voit sur le pied.
Grâce au microscope. Sur le pied, on voit des boules un peu. C'est très beau. C'est couleur orange dessus et...
Beaucoup de formes, savoir aussi ce que c'est un champignon. On découvre plein de choses, c'est très ludique. Il y en a pour tous les âges. Il y a des vrais champignons et c'est super agréable de voir ça.
Ce monde incroyable est très varié des champignons et on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a dans nos jardins et autour de nous. C'est incroyable, ceux qui colonisent les insectes, hein, ils sont intéressants.
Quand ils prennent le contrôle du corps de l'insecte, les spores.
C'est vraiment un super monde, c'est très chouette. Même pour les enfants, c'est sympa, quoi.
En Nouvelle-Calédonie, le nombre d'espèces de champignons est estimé à 30 000 et seules 500 espèces ont pour l'instant été recensées.
Merci Kélinda Boiscou, il est 18h passé de 5 minutes. Une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actu sport.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La fin de votre journal, le sport avec Mickaël Gineski.
Et à la une de l'actualité sportive du rugby, on connaît l'affiche de la finale du championnat de France 2025, Léo Fichou.
Et ce sera un remake de la dernière finale. Toulouse contre l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles s'est imposée sur Toulon ce matin 39 à 24. Accrochés à la pause par le RCT, les Bordelots-Bègles ont accéléré en seconde période pour s'imposer aisément lors de la seconde demi-finale du top 14. Le récent vainqueur de la Champions Cup jouera donc pour le bouclier de Brennus, un doublé cette saison, pourquoi pas. Pour rappel, hier matin, dans l'autre demi-finale, le Stade Toulousain s'est imposé 32 à 25 sur l'aviron bayonnais. Il y aura donc un air de revanche entre l'UBB qui a infligé à Toulouse une défaite en Champions Cup et en Championnat de France. Mais les Toulousains avaient surclassé Bordeaux-Bègles l'année dernière en finale du top 14, 59 à 3. Finale à suivre dans une semaine.
Ovalie toujours pour rappeler la victoire du 15 de France sur l'Angleterre en match amical sur le score de 26 à 24, notamment grâce à un dernier essai signé du Calédonien Romain Taofifénoua. Fabien Galthié avait fait appel à de nombreux novices pour cette rencontre puisque les cadres étaient concernés, on le disait, par les phases finales du top 14. Prochain rendez-vous pour les Bleus, 3 matchs contre les All Blacks en juillet en Nouvelle-Zélande. Un mot de basket pour signaler la victoire des Françaises contre la Suisse pour le compte de la troisième journée des phases de groupe de l'Euro féminin. Un succès 111 à 37. Les tricolores sont en tête du groupe A. Les sports mécaniques, le Grand Prix d'Italie de MotoGP est au menu ce week-end de Léo.
Après avoir signé la pole position hier, Marc Marquez a remporté cette nuit la sprint race sur le circuit du Mugello. Il a devancé, comme souvent depuis le début de la saison, son frère Alex. C'est Pecco Bagnaia qui complète le podium. Fabio Quartararo, victime d'une luxation d'une épaule lors des essais libres hier, a longtemps joué les premiers rôles avant de baisser le rythme et de terminer à la 10e place. Juan Zarco, lui, a chuté dès le premier tour. Il a été percuté par Brad Binder. Ce soir, le départ du Grand Prix d'Italie sera donné à 23h, heure de Nouméa. Marc Marquez s'élancera en tête devant Pecco Bagnaia et son frère Alex Marquez. Fabio Quartararo sera sur la deuxième ligne en quatrième position. Juan Zarco partira lui de la 14e position.
Un mot de tennis avec Carlos Alcaraz, l'Espagnol qui disputera une nouvelle finale après Roland Garros. Cette fois, il tentera de conquérir le titre sur le gazon londonien du tournoi du Queens. Il sera opposé au Tchèque Jiří Lehka. Et puis, c'était ce week-end le retour de la Vasque olympique dans le ciel de Paris. Un an après les JO, la Vasque, la célèbre anneau de 20 mètres de diamètre accroché à un ballon en hélium, s'est élevé à nouveau depuis le jardin des Tuileries pour se souvenir des Jeux Olympiques de Paris 2024.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Le sport en Calédonie, les championnats territoriaux de tir à l'arc extérieur sur distance internationale se déroulaient à Kuutio aujourd'hui. Distance internationale, cela correspond aux distances disputées lors des Jeux Olympiques pour cette discipline. Une compétition organisée par le Dimbéa Archery Club. Cette épreuve nécessite rigueur et concentration, d'autant plus lorsque la météo rajoute une contrainte pour les archers. Ça fait partie du jeu, nous explique Jean Delannay, le président du Dimbéa Archery Club.
On est obligé de faire avec, de toute façon on n'annulera jamais une compétition pour cause de mauvais temps, sauf
pour cause de cyclone ou dépression. Là, ça dépend pas de nous. Mais l'archerie étant un sport, un art martial, on n'arrête pas une bataille à cause de la pluie.
Les pratiquants, ceux qui aiment la compétition avant tout dans le tir à l'arc, dans quel état d'esprit sont-ils ?
Bon, on a pris une petite claque avec l'annonce de l'annulation des déplacements au mini-jeu de Palau. Mais on a cette capacité de se projeter également sur l'avenir. Donc maintenant, on vise les championnats de Nouvelle-Zélande ainsi que les Jeux du Pacifique en 2027. On est très très confiants et les archers sont très très motivés.
Et parmi les participants qui étaient engagés ce dimanche, Léo Giban, il avait déjà décroché un titre de champion de France ainsi qu'une médaille d'or au championnat d'Océanie notamment. S'il vit depuis 3 ans maintenant en métropole, un retour en Calédonie pour des vacances reste l'occasion pour lui de retrouver la grande famille des archers du territoire.
Je fais du tir à l'arc depuis 14 ans maintenant. J'ai commencé quand j'avais 7 ans, toujours sur le cap de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Je reviens de temps en temps ici, et ça fait plaisir de refaire des compètes sur le territoire. J'ai réussi à continuer le tir à l'arc, que je vais faire les championnats de France là-bas. J'emmène mon arc partout. Et surtout que la dernière fois que j'étais venu pour les Jeux du Pacifique. C'est toujours sympa de venir pour tirer. Ce qui me plaît le plus, surtout, c'est la compétition, cet esprit de compétition-là. Malgré qu'on s'affronte pas directement avec un adversaire, tu t'affrontes toi-même, tu dois être à 100%, 120% sur chacune de tes flèches à chaque instant. Sur une compétition qui peut être très longue, c'est vraiment ce que j'aime bien dans ce sport. L'ambiance en Calédonie est vraiment très cool, bien plus ouvert qu'en France, même si ça reste une discipline où les gens sont assez ouverts. Donc c'est vraiment cool de venir tirer ici. J'ai dans ma ligne de mire Tahiti 2027. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai pas encore la vision des choses, mais c'est exactement un objectif, un gros objectif pour moi, cette échéance-là.
Une vingtaine de pratiquants étaient engagés ce dimanche sur ces championnats de Calédonie de tir à l'arc extérieur sur distance internationale. Il y avait aussi du badminton ce week-end à Dimbéa, l'ABC Dimbéa qui organisait hier et aujourd'hui son traditionnel tournoi jeune. 84 joueurs présents et pas que des Calédoniens. Deux jeunes de Wallis et Futuna sont également venus défier nos représentants, des champions en herbe qui pourraient dans quelques années représenter la Nouvelle-Calédonie. Jérôme Kachawan, le président de l'ABCDI.
C'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les poussins Benjamin, comme c'est des catégories, c'est des moins de 12 ans, donc c'est les jeunes qui sont justement à en devenir bientôt. Là, je sais que côté ligue, ils se sont centrés aussi sur la présélection sur des cadets et des juniors, justement parce que notamment dans 2027, il y aura un déplacement à faire. Donc oui, c'est là où émerge l'avenir de demain.
Les seniors n'ont qu'à bien se tenir.
C'est ça, les seniors n'ont qu'à bien se tenir. C'est vrai que on commence à avoir quelques jeunes qui commencent à percer, donc c'est bénéfique pour nous parce que c'est vrai que sur les tableaux, on voit beaucoup de vétérans qui gagnent les tournois alors que normalement ça devrait être nos juniors qui percent.
Et chez les juniors, on notera la victoire de William Naisilin, licencié à l'ABCD, et d'Olympe d'Archeville de l'association sportive de Magenta. Prochain rendez-vous pour le badminton, ce sera à Bouraille à la fin du mois de juillet. Un coup d'œil au reste des résultats du week-end de Léo Fichot.
Il y avait du football d'abord avec la 5e journée de Super League. La Escougnée s'est imposée 3-1 sur le SC Negeu. Yengensport a largement dominé Horizon Passo 4-1. Victoire également de la S Lossi 3-0 sur le CA Saint-Louis. Et puis Geisha a dominé le Mont-d'Or 2-0. Au classement Tigasport et Magenta, exempts de cette 5e journée, restent en tête de leur groupe. Le retour aussi de la Super League en futsal ce week-end. Il y avait 11 matchs au programme entre hier et aujourd'hui. 7 matchs hier, 5 du côté de la Salle Omnisport de Lansvata, 2 du côté de Wailou et puis 2 aujourd'hui à Koné. On notera notamment les victoires de l'ASPTT, du FC Ferrand et de l'UNC. De la voile avec la New Caledonia Group à Marais, la remise des trophées avait lieu hier soir. En temps compensé, c'est Guilty Pleasure Speed Marine et Puro qui l'emporte, un équipage calédonien. En temps réel, c'est l'équipage néo-zélandais de V5 qui est arrivé en première position. Du côté de Boulou Paris, les courses hippiques étaient de retour hier, deuxième rendez-vous de l'année après la réunion de Bouraille le 31 mai dernier. 6 courses au programme sur l'hippodrome de Boulou Paris. Sur le premier prix, le prix Raymond Houpan, c'était la course d'ouverture. On signalera la victoire de Baby Groove devant Star de Watom et Anytime Boxing Vanina de Tamois. Et puis il y avait du drift avec le deuxième round du King of Drift sur le circuit de Tomo-Valley. Chez les pros, dans une finale disputée, c'est Mathieu Fouché qui s'est imposé face à Nicolas Thévenet qui termine comme lors du premier round à la deuxième place. Stéphane Carnicelli a remporté la petite finale contre Eric Riandet. Et puis on notera chez les amateurs la victoire de Ryan Terino-Wapuaï-Terai devant Jenrik Sakiman et Julien Ankar, vainqueur du premier round chez les amateurs. Glenn Newland termine quatrième.
Merci beaucoup Léo Fichou, il est 18h passé de 14 minutes, c'est l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagée.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre, bonsoir.
Bonsoir, cette nuit, les éclaircies s'imposeront sur l'ouest et le nord. Ailleurs, des passages nuageux circuleront avec parfois une ondée sur les Loyautés et la pointe sud. L'alizée sud-est restera soutenue et soufflera entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds, voire autour de 25 nœuds sur la pointe nord-est avec des rafales à 35 nœuds. Il faiblira sur l'ouest avec 10 à 15 nœuds en général. Les températures continueront de baisser de 16 à 22 degrés près des côtes et localement sur la côte ouest entre 11 et 15 degrés. Demain matin, le soleil dominera l'ouest et la pointe nord. Ailleurs, le ciel alternera entre belles éclaircies et passages nuageux porteurs de rares averses. L'alizée d'est-sud-est soufflera de 20 à 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds. Localement, un bon 25 nœuds avec des rafales autour de 35 nœuds sur la pointe nord-est. Sur le nord-ouest, il sera plus faible de 15 à 20 nœuds.
Merci beaucoup Pierre pour la météo et la technique. C'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Les États-Unis qui ont frappé aujourd'hui 3 sites nucléaires en Iran. Donald Trump qui s'est félicité de cette intervention militaire réussie. Téhéran a répondu que ces attaques auront des conséquences éternelles. On aura l'occasion évidemment d'y revenir dans nos prochains rendez-vous d'infos.